Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Gisèle Cage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Kapi. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons nombreux pour cette nouvelle édition de notre journal. Sans plus tarder, passons aux titres qui feront l'actualité de cette édition. Crise dans la région de Grand Lac, marquée par les tensions armées dans l'est de la RDC. Maxime Prévost salue les initiatives de paix du Qatar et des États-Unis, tout en soulignant l'importance d'un dialogue national inclusif pour assurer une stabilité durable dans la région. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, qui est également invité de ce journal, parle de sa tournée régionale où il a rencontré successivement le président de l'Ouganda, du Burundi et de la RDC. Perquisition à la ferme Futuka, propriété de Moïse Katumbi. Le parti Ensemble pour la République demande l'arrêt immédiat de cette action irrégulière en violation des lois nationales. Abandon des antirétroviraux par les patients atteints du sida dans la province de la Tchopo. Le programme national de lutte contre le VIH-Sida PNLS alerte sur les promesses des guérisons miraculeuses et la consultation des charlatans. C'est tout pour les titres. Nous commençons par cette nouvelle en provenance de Rome. Le conclave pour l'élection du 267e pape débutera le mercredi 7 mai. Les 135 cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le nouveau pape 17 jours après le décès du pape François. Cette date a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale qui s'est tenue hier lundi de 9h à 13h avec la participation des 180 cardinaux, dont un peu plus d'une centaine des cardinaux électeurs selon le Vatican. Plus de détails avec Blaise Makassi.
Lors de cette réunion, explique le Vatican, près de 20 interventions se sont succédées portant sur l'Église catholique, ses relations avec le monde, les défis à venir et les qualités que le nouveau pape devra posséder pour y répondre. Conformément à la Constitution apostolique, le conclave débutera au 17e jour de vacances du siège apostolique. Le matin du mercredi 7 mai, tous les cardinaux se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre au Vatican afin de prendre part à la messe votive. Puis, dans l'après-midi, ils se rendront dans la chapelle. Lorsque le dernier des cardinaux électeurs aura prêté serment, seuls resteront dans la chapelle Sixtine le maître des célébrations liturgiques et l'ecclésiastique choisi pour délivrer la deuxième des méditations. Pour que l'élection du nouveau souverain pontife soit valable, son nom doit faire l'objet d'au moins 2/3 de voix comptées sur la base des électeurs présents et votants. Si l'élection n'a pas lieu au premier tour, il y aura le jour suivant 2 tours de scrutin, le matin et l'après-midi. Les résultats des scrutins sont, comme le veut la tradition, rendus visibles par la couleur de la fumée qui s'échappe de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. La fumée noire signale que la majorité de 2/3 n'a pas été atteinte. La fumée blanche signale l'élection d'un nouveau pape.
Crise dans la région de Grand Lac. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et de la coopération, Maxime Prévost, salue les initiatives de paix menées par le Qatar et les États-Unis pour rétablir la stabilité dans la région de Grand Lac. Bien qu'optimiste, il reste prudent quant à l'issue de ces pourparlers et insiste sur l'importance d'un dialogue national inclusif. Il précise également que sa tournée régionale actuelle n'est pas liée à une démarche de médiation de la Belgique dans la crise à l'est de la RDC. Cet éclaircissement a été apporté hier lundi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Maxime Prévost est au micro de Ronélie Timbonera.
Mais nous sommes conscients qu'il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nid de poule sur celui-ci et que destination finale sera bien effectivement atteinte. En tout cas, la Belgique y apportera son concours dans la dimension qui peut être la sienne à chaque fois que c'est nécessaire, de manière vocale, publique ou en coulisses, parce qu'il n'y a pas d'autre but recherché que la sécurisation de l'Est du Congo et des populations qui y vivent. Nous sommes aussi conscients qu'il est important que des signaux soient donnés et qu'un dialogue national soit nourri dans les frontières de la RDC.
Au Qatar, le ministre d'État qatari aux affaires étrangères a rencontré hier lundi à Doha une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, et de l'Église du Christ au Congo, ECC. Selon un communiqué officiel du ministère qatari des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur les efforts visant à résoudre les différends entre la RDC et le Rwanda. Le Qatar a réaffirmé son soutien aux initiatives de paix de la RDC en soulignant l'importance du dialogue pour régler les conflits. Cette rencontre intervient quelques jours après la signature d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sous la médiation du Qatar. Pour rappel, les deux parties se sont engagées à travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif, à rechercher une solution politique au conflit et à éviter toute escalade militaire. Pendant ces temps au Nord Kivu, la rébellion du M23 intensifie sa campagne de recrutement des jeunes pour ce qu'elle appelle l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Un comité de recrutement et de mobilisation est actif dans les quartiers de la ville de Goma et les localités du territoire de la province. Cette activité semble paradoxale pour certains, compte tenu des clauses de l'accord de principe de Washington et de la déclaration commune des Doha, deux textes qui promettent une désescalade sur le terrain. Élise Kavira pour les détails.
À chaque séance, l'opération des recrutements est précédée par la sensibilisation sur la vision et la philosophie de l'AFC M23. Les habitants des quartiers sont encouragés à convaincre les jeunes à adhérer à la rébellion. Les volontaires sont immédiatement accueillis pour être orientés vers les centres de formation idéologique avant d'acquérir les notions sur le maniement des armes et rejoindre les combattants. Samedi 26 avril dernier, c'est le bureau du quartier Mourara à l'office 1 de la commune de Karisimbi qui a accueilli les mobilisateurs et les recruteurs du M23. Au cours de ce que les rebelles appellent « dialogue direct », un jeune du quartier s'est dit préoccupé par ce qu'il adviendrait pour lui si jamais après son adhésion, la rébellion doit se retirer de Goma et du Nord Kivu. En réaction, l'un des rebelles du M23 demande au jeune homme de s'apaiser. Le M23 n'a nullement l'intention de quitter Goma ou toute autre entité sous son contrôle actuellement, martèle-t-il. Le même message s'étend dans d'autres quartiers et territoires sous contrôle des rebelles. Avant la séance de samedi au quartier Mourara, le M23 s'était successivement rendu dans les quartiers Mapendo, Bujovu, Majengo, Kieshero, Ndosho, Kasika et autres dans la commune de Karisimbi. La campagne de recrutement a lieu également dans les territoires, notamment dans les territoires de Niragongo, Chefri, Bukumu et dans la cité de Kichanga, groupement Bukoma, en territoire de Rutshuru.
Restons au Nord Kivu. Le reste d'explosifs de guerre suite aux affrontements entre le rebelle du M23 et les militaires des FARDC représente actuellement un grave danger pour les habitants de la ville de Goma et de différentes zones sous occupation rebelle. En l'espace d'une semaine, de lundi à samedi dernier, 4 personnes ont été blessées ou tuées par des engins explosifs, respectivement à Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru, et dans la ville de Goma. Greta Lulendo nous fait le point.
À Goma, le drame est survenu l'après-midi de samedi au quartier Bujovu, dans la commune de Karisimbi. Le jeune Christian qui faisait paître ses chèvres dans le cimetière de Letigué a malencontreusement heurté un objet qui a immédiatement explosé. Le jeune berger est mort déchiqueté sur le champ. Quelques-unes de ses chèvres sont également mortes, alors que d'autres ont eu les membres amputés par les éclats de l'engin. Un malheureux événement qui a ému les habitants du quartier Bujovu qui fréquentent habituellement ces vieux cimetières. Hier lundi matin, un autre engin a été découvert caché sous un amas de pierres sur l'avenue Mugiai au quartier Kasika dans la commune de Karisimbi. Les habitants effrayés appellent à l'intervention des structures de déminage. Mercredi dernier, un incident similaire à celui de Litigué a eu lieu à Karisimbi. Ici, ce sont 3 jeunes également à la recherche de pâturage pour leurs chèvres qui ont touché à un reste de guerre non explosé. Il y a eu des flagrations et les 3 jeunes ont été mortellement blessés, rapportent les témoins de cette partie du territoire de Rutshuru. Les organisations de la société civile entreprennent depuis un moment une sensibilisation de la population aux restes explosifs de guerre. À travers les réseaux sociaux, elles diffusent des images représentant des objets dont tout le monde, principalement les enfants, devrait se méfier.
Retour à Kinshasa, l'ASBL Congo Action pour une diplomatie agissante CADA demande au gouvernement de clarifier la déclaration de principe signée le vendredi dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Dans un communiqué publié hier lundi, le coordonnateur de cette structure, Eric Kamba, exprime des préoccupations concernant plusieurs points de cet accord qui suscite des interrogations parmi de nombreux Congolais. Il cite notamment l'affirmation question de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC, tout en soulignant un partage de ressources stratégiques au profit des investisseurs américains sous prétexte d'intégration régionale. Écoutons Eric Kamba, joint par Peléki Pelamondo.
Kada constate que les Congolais sont aussi irrités par le fait que l'on parle de la paix alors qu'il n'y a dans la déclaration aucune évocation aux crimes de guerre, aux viols massifs et aux massacres documentés par les Nations Unies. Bref, aucun mécanisme de réparation n'est envisagé. Par ailleurs, ils ne comprennent pas comment peut-on lutter contre les groupes armés sans relever par exemple le rôle du Rwanda, dont l'on a exigé le retrait de ses troupes de la RDC dans le soutien au M23. De ce qui précède, Kada pense que le gouvernement congolais a le devoir de clarifier les zones d'ombre qui jettent l'écume sur la déclaration de principe, sans bien entendu dévoiler les stratégies pour la Manche à venir. Ce qui pourrait apaiser dans une certaine mesure les Congolais qui s'en inquiètent. Toutefois, Kada en appelle ainsi aux négociateurs congolais d'avoir la tête froide et de prendre en compte toutes les réserves émises par leurs compatriotes pour déboucher sur un accord reflétant leur desiderata.
L'actualité nous amène notamment dans la province du Haut-Katanga où la coordination provinciale du Parti Ensemble pour la République dénonce la perquisition irrégulière effectuée par des militaires à la ferme Futuka, propriété du président du parti Moïse Katumbi. Dans un message adressé à Radio Kapi hier lundi, ce parti d'opposition demande l'arrêt immédiat de ces actions qu'il considère comme des brimades accentuant les divisions dans le pays. Écoutons un extrait de ce message lu par le rapporteur de la coordination provinciale de l'Ensemble pour la République. Les propos de Patrick Kianda ont été recueillis par Paulin Munanga.
La ferme Futuka, propriété privée de notre président national Moïse Katumbi Tshakwe, a été l'objet d'une perquisition irrégulière faite avec violence, sans respect d'aucune règle en la matière. Déjà la veille de cette perquisition, une impressionnante et inopportune présence militaire a été enregistrée dans l'enclos de la dite ferme, rendant ainsi impossible le déroulement normal de toutes les activités. En ce moment où notre cher pays, qui est en état d'équilibre sécuritaire très instable et plus que jamais sur les fils du rasoir dans sa partie orientale, a grandement besoin de l'union et de la solidarité de tous ses fils et filles, ensemble pour la République. Face à toutes ces provocations délibérées qui violent intentionnellement les prescrits de l'article 34 de notre Constitution, exige l'arrêt immédiat et définitif de toutes ces vexations qui ne font que mettre le feu aux poudres en accentuant les divisions dans le pays.
Comme indiqué dans les titres, dans la province de la Tchopo, de nombreux patients atteints du sida ont cessé de prendre leur antirétroviraux ces derniers mois dans diverses zones de santé. Ce constat a été fait par le programme national de lutte contre le VIH-Sida PNLS dans cette région. Selon le docteur Aloïs Olinda Loku Abissa, médecin coordonnateur provincial du PNLS, cette situation est due en partie aux promesses des guérisons miraculeuses faites dans certaines églises, ainsi qu'à la consultation des charlatans, guérisseurs et féticheurs. Des décès ont été signalés parmi ces patients et le docteur Abissa craint une propagation accrue du virus dans la communauté. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkole.
Le problème serait aussi, il faut la confidentialité. Deuxièmement, les malades eux-mêmes s'auto-stigmatisent. De l'autre côté, nous avons les églises et les tradipraticiens. La grande défection de nos malades, c'est vers. Quand ils vont dans les églises, on dit voilà, il y a la guérison miracle. Nous ne refusons pas. Même Jésus, pour faire les miracles, il avait dit, mais on ne tente pas Dieu. En principe, quand on a le VIH, on ne guérit pas du VIH. Les médicaments que nous donnons, c'est pour arrêter la multiplication. Le virus reste dans l'organisme. Et une fois que vous abandonnez, les verges continuent sans multiplication. Et c'est ça que les gens font. Si vous ne prenez pas les traitements, le nombre des globules blancs diminue et le globule n'arrive plus à fabriquer les anticorps. Vous arrivez à la phase sida, dernière phase. Quand vous faites maintenant les tests, vous verrez que les tests reviendront négatifs. Les tests, là, ce sont des anticorps qu'on cherche. Mais si on va chercher le fragment du virus, on va trouver que le virus est là, donc le VIH est toujours positif. Et voilà comment les gens sont en train de mourir avec le VIH. Ils abandonnent à cause de ces dires des choses. On a appelé les gens de l'église de réveil, représentants pour leur parler de ça. Il faut vraiment qu'ils collaborent avec nous. Il ne faut pas qu'on dise aux gens d'abandonner les traitements. Il faut que les gens continuent avec leur traitement. On peut vivre avec son virus, mais quand on n'a pas un traitement, on vivra et on mènera la vie comme tout le monde.
Actualité internationale.
Au moins 26 personnes ont été tuées hier lundi lorsqu'un camion a roulé sur une mine dans l'état de Borno, dans le nord. Est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun, l'état de Borno est le berceau et les bastions de Boko Haram, dont l'insurrection djihadiste a fait depuis 15 ans plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés dans cette région du pays le plus peuplé d'Afrique. 26 personnes ont été tuées dans l'explosion, dont 16 hommes, 4 femmes et 6 enfants.
L'invité.
Ce matin, Radio Okapi accueille le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Il vient de conclure une tournée régionale débutée vendredi dans la région de Grand Lac. Durant cette mission, il a rencontré successivement le président de l'Ouganda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Les discussions ont principalement porté sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. À l'issue de cette tournée, Maxime Prévost partage ses impressions sur les échanges avec ses dirigeants et analyse les efforts diplomatiques en cours dans la région. Restez à l'écoute.
Maxime Prévost, quel regard vous avez sur toutes ces initiatives actuelles visant à ramener la paix dans la partie est de la RDC, principalement le processus des Doha et celui porté par Washington?
Il faut rester vigilant quant au processus initié par Doha et Washington. Si nous sommes positifs dans l'accueil de ces initiatives, nous souhaitons surtout pouvoir mesurer les résultats concrets qui pourraient subvenir dans les jours ou semaines à venir, histoire de garantir que si un chemin a été tracé, il continuera d'être emprunté, qu'il n'y aura pas trop de nid de poule sur celui-ci et que la destination finale sera bien effectivement atteinte. En tout cas, la Belgique y apportera son concours dans la dimension qui peut être la sienne, à chaque fois que c'est nécessaire, de manière vocale, publique ou en coulisses, parce qu'il n'y a pas d'autre but recherché que la sécurisation de l'Est du Congo et des populations qui y vivent.
Que retenir des discussions que vous avez eues avec le président de la République démocratique du Congo?
Des messages forts ont aussi été adressés à l'attention des autorités congolaises. Parce que si nous sommes persuadés que la priorité doit être portée à la résolution du conflit armé par une réponse régionale et internationale, nous sommes aussi conscients qu'il est important des signaux soit donné et qu'un dialogue national soit nourri dans les frontières de la RDC. J'ai pu exhorter le président de la République à donner ces signaux, je pense notamment à la condamnation publique de la diffusion de tout message de haine à l'égard de quelconque communauté, y compris la communauté Tutsi, qu'il puisse y avoir aussi plus aucune ambiguïté quant à l'absence de collaboration entre l'armée régulière congolaise et le Front de Libération du Rwanda. Les FDLR n'ont pas à être considérés comme un interlocuteur acceptable par quelconque armée régulière. Ils doivent pouvoir aussi faire l'objet de poursuites par rapport aux exactions qui sont commises et des signaux sont également clairement attendus à cet égard. Il y a aussi une volonté de nourrir le dialogue national qui doit être aussi un adjuvant de la résolution des conflits et de la pacification, bien entendu, de l'ensemble du territoire congolais. J'ai donc plaidé pour qu'il puisse y avoir une attention réservée et donc aussi une écoute à l'initiative des évêques.
Des accords ont été signés entre le gouvernement congolais et celui du Rwanda d'un côté et de l'autre, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 sur un cessez-le-feu. Cependant, il est surprenant que ces accords ne fassent pas allusion au Wazalendo. En tant que stratège des questions politiques, quelles prévisions faites-vous en termes de réussite de toutes ces initiatives pour retrouver la paix dans l'est du pays?
Par principe, quand vous avez une pluralité d'acteurs qui sont partie prenante à un conflit, il ne peut difficilement y avoir une résolution qui soit à la fois juste et durable si les différentes parties ne se retrouvent pas à un moment donné concernées et impliquées, parce qu'on courrait alors le risque d'une fragilisation du processus de paix par des perturbations exogènes aux acteurs qui y ont pris part. Et donc ça, j'ose espérer aussi que n'étant pas autour de la table seule fin politique, que chacun y soit attentif.
Monsieur le ministre, au nom de la paix, est-ce que vous cautionnez à ce que les belligérants impliqués dans de présumés crimes dans l'est de la République démocratique du Congo soient graciés parce que la paix est une nécessité actuellement dans cette partie du monde?
Un des principes sur lequel la Belgique n'a jamais transigé, c'est celui de lutter contre toute impunité. Et donc, quels que soient les acteurs, parties prenantes du conflit, il n'y aura pas de réconciliation si le sentiment qui prédomine est celui, à un moment donné, d'une impunité à l'égard de celles et ceux qui ont commis des exactions atroces. Et donc, je suis confiant et je compte bien à ce que l'ensemble des parties prenantes qui vont façonner ces futurs accords de paix puissent aussi réserver l'attention nécessaire à ce principe essentiel, celui de rendre des comptes.
Merci, Maxime Prévost.
Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, répondant aux questions de Ronéline Timbonera. C'est tout pour ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. À très bientôt pour un nouveau journal.